Dans l'étude du chapitre 2, nous arrivons au verset 9, qui nous dit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Pourquoi cet abaissement momentané au-dessous des anges, de celui qui est ensuite regardé comme supérieur à tous? Eh bien, l'Épître va montrer qu'il convenait, dans le plan parfait de Dieu, que Jésus, son Fils, soit élevé à la perfection, au travers de ses souffrances, afin de réaliser le plan de Dieu, c'est-à-dire d'amener beaucoup de fils à participer à la gloire éternelle, étant ainsi le prince du salut de ses fils. Dans le plan de Dieu, une disposition essentielle doit être mise en lumière. Cette disposition, c'est la communauté de chair et de sang entre le Christ et les hommes, ses frères. Et les hommes sont ses frères à cause de cette communauté. Et cela se traduit dans notre version par ceci, ils sont tous issus d'un seul. Tous issus d'un seul. Le Christ et les hommes sont ensemble descendants d'Adam. Pour accomplir le salut tel que nous le voyons, que nous le connaissons maintenant par les Écritures, il fallait que le Sauveur entrât dans cette masse humaine qu'il venait sauver. Il fallait qu'il, c'est de l'intérieur, lui aussi, qu'il devait apporter le salut des hommes. Il fallait qu'il ait communauté. C'est en raison de cette communauté, de cette identification avec les hommes, que Jésus devient capable d'instituer la rédemption. Il y a un lien de confraternité qui unit la personne du Fils de Dieu incarné, aux hommes qu'il est venu racheter. Or, par la puissance de la foi, cette confraternité doit se conserver tout en changeant de sens. En effet, Jésus participe au sang et à la chair des hommes, telle qu'elle est. L'Épître aux Romains précise bien que c'est une chair semblable à celle du péché. Bon, le Seigneur n'a pas connu le péché, lui, dans cette chair, mais la chair qu'il a prise est une chair semblable, absolument semblable à celle du péché. Donc Jésus participe au sang et à la chair des hommes, mais parce qu'il meurt pour eux et qu'il anéantit celui qui a la puissance de la mort, il transporte cette confraternité, cette unité avec les autres hommes, d'une origine à l'autre. Il prend notre origine, je m'explique, il prend notre origine, Adam. Venons tous d'Adam. La chair et le sang, c'est ça, c'est notre origine d'Adam. Il prend notre origine, et moyennant la foi, toujours, il faut toujours mettre ça, n'est-ce pas, moyennant la foi. C'est, le Seigneur est bien mort pour tous les hommes, mais tous les hommes ne seront pas sauvés, parce qu'il y a ce moyennant la foi. Bon, alors, il prend notre origine, Jésus prend notre origine qui est Adam, la chair et le sang, et nous rend participants de sa propre origine en tant que fils de Dieu. C'est pourquoi je dis, il transporte cette confraternité qu'il a avec les hommes, il la transporte d'une origine à une autre origine. L'origine de l'homme languissant dans son péché, dans sa chute, Et alors, il transporte, il va, lui, et il amène avec lui les autres. Il transporte, naturellement, sous réserve de la foi, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas le répéter tout le temps. Il transporte donc les autres hommes à son origine, à lui. Mais vous ne pouvez pas savoir, chers amis, et il faut pourtant arriver à bien comprendre ces choses, combien là est le grand secret du plan de salut de Dieu. Transporte d'une origine à l'autre. Alors, pour asseoir cela, je vais vous lire dans Jean chapitre 3, verset 31. Jean chapitre 3, verset 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Or, ici, il faudrait faire une petite rectification à notre traduction. Au verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et au lieu de dire « celui qui ne croit pas au Fils », il faudrait dire « celui qui n'obéit pas au Fils ». Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure pour lui. Ou certaines autres traductions, parce que ce que je vous dis là, ça figure dans certaines traductions. Dans une autre traduction, celui qui désobéit au Fils, c'est la même chose, ou qui n'obéit pas au Fils. Je ne sais pas pourquoi second a cru devoir reprendre celui qui croit dans un sens direct et ensuite celui qui ne croit pas dans un sens négatif. Mais c'est celui qui n'obéit pas au Fils de Dieu n'a point la vie. Et puis, encore ailleurs, le Seigneur insistera sur le fait qu'il vient d'en haut. Moi, je suis d'en haut. Moi, je suis d'en haut. Voyez donc l'origine, le Seigneur Jésus descend, il vient. Enfin, il est descendu d'ailleurs. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit bien que celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Alors, le Seigneur descend, il vient d'en haut, c'est son origine. Il vient prendre l'humanité dans l'origine qu'elle a, dans cette origine d'Adam. Hein. Et puis là, il opère le travail et ensuite, n'est-ce pas, il remonte les hommes à son origine, à lui. Et il va même si bien nous ramener les élus à son origine à lui, qu'il va les faire pénétrer dans le lien entre le Père et le Fils. Chapitre 17 de Jean. Il va les faire pénétrer là. C'est merveilleux. C'est donc bien le lien avec Jésus-Christ qui nous sauve. On n'insistera jamais trop là-dessus. C'est bien le lien. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est le lien avec lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. La réciprocité dont on parlait tout à l'heure. Il demeure en moi et je demeurerai en lui. Pour montrer que cette participation du Christ à la chair et au sang des hommes a ses racines dans l'Ancien Testament, le psalmiste se sert, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, se sert de deux psaumes. Le psaume 22, au verset 23, qui est un psaume messianique de toute évidence, dit ceci, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » L'assemblée dont il est question désigne l'Église, en laquelle se réalise l'unité du Christ et des croyants. L'Église, chers amis, c'est pas l'assemblée, c'est pas ce que nous en connaissons extérieurement, c'est pas ce qui nous préoccupe le plus souvent d'une façon vaine. L'Église, c'est tout autre chose, c'est véritablement le corps de Christ. Eh bien, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, au milieu de tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est là que se réalise l'unité du Christ et des croyants. Deuxièmement, notre texte sert d'une autre citation empruntée à Ésaïe chapitre 8 et verset 17. Il y a là une parole prophétique prononcée par anticipation par le prophète pour montrer l'œuvre qu'accomplira l'Éternel. L'Épître aux Hébreux utilise beaucoup de courtes citations comme celle-là. Remarquons ceci, c'est que les termes d'enfant, hein, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés, le terme de frère, j'annoncerai ton nom à mes frères, des versets 11, 12, 13 et 14 que nous étudions, ces termes expriment clairement l'entière participation du Christ à la nature humaine. Le fait qu'il a dû, lui aussi, placer sa confiance en Dieu, quand dans sa nature humaine, il a fallu que là, un travail s'opéra, il a fallu qu'il place sa confiance en Dieu. Et cela souligne également qu'il est entré dans la condition humaine. Il a revêtu une chair semblable à la nôtre, il est entré dans toute la condition humaine. Il est d'en haut, il fallait qu'il le signale, parce que vraiment on le voyait comme un homme. Évidemment, on était étonné de ce que cet homme pouvait dire. Il parlait beaucoup mieux, avec beaucoup plus de puissance et d'autorité que n'importe quel scribe. Bien sûr, on ne pouvait rien lui reprocher, on n'avait rien à lui reprocher, bien sûr, mais il était quand même un homme, il vivait dans la condition de l'homme. Et alors, les termes enfant et frère soulignent beaucoup cette participation du Christ à la nature humaine. Et alors, lui aussi, dans cette nature, je le disais, a dû placer sa confiance en son Dieu. La participation du Christ à la chair et au sang d'Adam, c'est ce que nous nommons généralement l'incarnation. L'incarnation. Ce mot est commode, n'est-ce pas, pour ne pas répéter toute une phrase, l'incarnation. Adam nous a fait tomber au pouvoir du péché, car le péché, c'est une puissance. C'est une puissance, l'oublions pas. Il y a une puissance qui parcourt le monde, et le péché, c'est cela. L'essence du péché, c'est une puissance. Il nous a fait tomber au pouvoir du péché parce que Adam, il est notre père, et que tous les hommes descendent de lui. C'est bien ce que le chapitre 5 des Romains nous précise, nous rappelle. Tous les hommes descendent de lui. Donc Adam nous a communiqué sa nature. La Genèse elle-même nous y fait réfléchir lorsqu'elle dit ceci. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. À ce moment-là, il ne s'agit plus de la ressemblance de Dieu et de l'image de Dieu, il s'agit de la ressemblance d'Adam, tel qu'il est, à ce moment-là, c'est-à-dire l'homme pécheur, l'homme tombé. à sa ressemblance, à la ressemblance d'Adam, et selon son image. Et c'est bien de là que part la puissance. C'est là que l'ennemi a introduit sa puissance, dans cette filiation d'un nouveau genre, cette filiation qui n'aurait jamais dû exister. Adam, pécheur qui enfante, Dieu aurait pu très bien supprimer Adam et Ève, puis recommencer. Mais ça n'aurait pas été sage, parce que s'il avait créé un nouvel homme et une nouvelle femme, et les ait placés dans un nouveau paradis, une nouvelle Éden, il aurait été obligé encore de les mettre à l'épreuve, et peut-être ils auraient succombé aussi. Enfin, tout cela, n'est-ce pas, c'est notre petite réflexion. Mais il est évident qu'il fallait que Adam et Ève fussent soumis à l'épreuve. Jésus lui-même est éprouvé. Il n'y a que Dieu qui n'est pas éprouvé. Mais tout est éprouvé. Tout le monde est éprouvé. Et alors, là, il est évident que Adam nous a devenus pécheurs, devenus tombés lui-même, nous a communiqué sa nature. Pour nous racheter, le Christ prend notre nature, une chair semblable à celle du péché. Il devient donc un autre Adam, parce qu'il va, aussi être le point de départ d'une filiation, comme le premier Adam. Premier Adam, nous sommes dans la filiation du premier Adam. Mais lui, il va être le point de départ d'une autre filiation. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans Ésaïe, chapitre 9, le prophète dit bien de Jésus, du Messie à venir, qu'il sera un père d'éternité. Père d'éternité. Conseiller, Dieu puissant, père d'éternité. Père d'éternité. Donc, une seconde filiation. L'idée de second Adam est très riche. C'est une seconde filiation qui prend naissance. Alors, notre nature que Jésus prend à lui, il la fait sienne. Il prend notre nature, il la fait sienne. Et il va la transformer. Dans cette nature, qui est une sorte de creuset où il élabore la rédemption. Alors là, dans cette nature, il va vaincre le mal. Il va expier le péché. Il va supprimer la condamnation par une justice rétablie. Parce qu'il va rétablir l'obéissance à force. Il va lutter. Il a fallu lutter dans cette nature. Ce n'est pas Dieu qui fait cela arbitrairement. Dieu peut tout faire. Et Dieu, si Dieu faisait ça arbitrairement, nous ne serions pas sauvés. Dieu, alors, créerait de nous une nouvelle humanité. Une humanité qui serait en dehors de nous, avec laquelle nous n'aurions aucun rapport, et nous n'aurions plus qu'à disparaître. Mais pour nous conserver, pour nous sauver, sauver veut dire conserver. Alors, pour nous conserver, nous sauver, il faut absolument que notre nature soit transformée dans le Christ. Voilà le travail du Christ. Il transforme, il va vaincre le mal, expier le péché, rétablir l'obéissance là où elle n'est plus. Et seul, lui, pouvait faire cela. Seul, il pouvait le faire. Mais pour le faire, c'est ce que souligne notre épître, il fallait qu'il participe à la chair et au sang. Par conséquent, ce qu'a fait le Seigneur sur la terre n'intéresse absolument aucune autre famille des créations de Dieu. Nous savons qu'il y a d'autres familles. Ça n'intéresse pas les anges. Il y a des gens qui disent, ah ben maintenant, Jésus a fait la rédemption, et cette rédemption, elle peut s'étendre à n'importe qui, etc. Ils connaissent rien de Rien du tout. Ils n'ont pas étudié les Écritures, ils n'ont pas... Il a participé à la chair et au sang, il sauve des hommes, et par ce qu'il a fait sur la terre, il ne sauve pas d'autres personnes que des hommes. Ce n'est pas à des anges qu'il rend service, dit notre épître, ce n'est pas possible. On ne peut pas rendre service à des gens qui appartiennent à une autre création. Il faut participer à la chair et au sang, c'est dans l'humanité même qu'il peut élaborer le salut. Par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, dit notre épître. En cédant à Satan, en Éden, dans le jardin d'Éden, l'homme est tombé au pouvoir de la mort, et Satan tient donc l'homme à sa discrétion, puisque c'est Satan qui a réussi ce beau coup. N'est-ce pas? Alors maintenant, il le tient en servage. Comme, par exemple, quelqu'un qui aurait pu se saisir d'un animal sauvage quelconque, hein, et puis qui le tiendrait à sa discrétion, n'est-ce pas? Il le tiendrait en captivité, il le dresserait, il ferait ce qu'il voudrait, n'est-ce pas? Parce que il s'est emparé de lui. Il a pu s'emparer. Eh bien, c'est un peu cela. En cédant à Satan, l'homme est tombé au pouvoir de la mort. Et Satan tient donc l'homme captif. Pour être délivré de cette irrévocable captivité, car elle est irrévocable. Si Christ n'intervient pas, la captivité dans laquelle l'homme vit maintenant est irrévocable. C'est donc qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? C'est irrévocable quand, je ne sais pas moi, des gens, peut-être des catholiques, imaginent ou se laissent aller à l'idée qu'ils peuvent travailler à leur salut, mais c'est absolument insensé, ça ne repose sur rien du tout. La captivité, elle est irrévocable, elle est à sens unique. Quand le diable eut pris possession de l'homme, c'est fini. L'homme ne pourra jamais se libérer de ça. Par conséquent, il n'y a pas de salut que l'homme puisse opérer lui-même. Alors, le seul moyen pour être délivré de cette captivité consistait à abandonner cette nature déchue sur laquelle Satan et la mort ont tout pouvoir. Mais par sa mort, Jésus a arraché au diable la puissance de la mort, car il va rentrer dans la mort, mais il va la détruire puisqu'il va ressusciter. Alors la mort, elle a perdu sa puissance. Elle a perdu, elle perd sa puissance. Puisque, entrant dans la mort, voici que 3 jours après, le Seigneur en ressort, plus vivant que jamais. Par conséquent, la mort qui pouvait clamer qu'elle était absolue, qu'elle régnait vraiment en dominateur sur les hommes, eh bien non, c'est fini. La puissance de la mort, là, est vaincue. Elle est vaincue. En la personne de Jésus, il faut bien dire une chose, c'est que la mort n'était pas le salaire du péché. Ah, si pour lui, il y avait eu tant soit peu intervention du péché, tant soit peu, n'est-ce pas, sa mort eût été le salaire, le juste salaire du péché, comme pour nous tous. Mais ce n'était pas le cas. C'est pourquoi il est souligné que Satan n'a rien en lui. Satan n'a rien en Christ. Donc la mort n'était pas le salaire du péché, mais la mort était une libre acceptation des conséquences de son identification avec les hommes. Il s'est identifié avec les hommes. Il a pris une chair semblable à celle du péché, une chair mortelle. Je rappelle ces paroles, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre, et personne ne me l'ôte. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, 17, 18. Satan, en somme, ne pouvait pas saisir Jésus. Il ne pouvait pas. Un homme passait par la mort tout en échappant au diable. Jésus passe par la mort tout en échappant au diable. Puisqu'en mourant sans péché, Jésus accomplissait la volonté de Dieu. Attention, le dessein de Dieu était là tout près. Il accomplissait le dessein de Dieu, le dessein absolu de Dieu. En mourant sans péché, n'étant en rien captif du diable, il échappe lui complètement à la captivité que le diable a fait peser sur l'humanité. Satan n'avait rien en lui. Voilà ce que je dis. Ça ne veut pas dire seulement qu'il n'était sans péché. Ça veut dire cela, si on veut, déjà, n'est-ce pas? Mais ça veut dire, Satan n'avait rien en moi. Il n'avait pas l'ombre d'un pouvoir, du plus petit pouvoir sur lui, en lui. Il n'avait rien. Il n'avait rien, puisque Jésus échappe entièrement au pouvoir de Satan. Alors, la résurrection qui suivit la mort du Seigneur va tout simplement être la conséquence et confirmer sa victoire et la défaite de Satan. Satan est défait, puisque voilà quelqu'un qui échappe à son pouvoir, à son pouvoir de rendre captif, de tenir en captivité. Voilà en quelque sorte un animal sauvage qu'on a mis en laisse, et voilà que la laisse casse, et puis l'animal s'en va, s'échappe. Une comparaison simplement comme une autre. La résurrection, donc, confirme la victoire du Christ et la défaite de Satan. C'est ainsi que le diable et sa puissance de mort ont été anéantis, mis en échec. Alors, le diable n'a pas encore été jeté dans l'étang ardent de feu, mais il est vaincu définitivement. C'est ce que Jésus a signalé avant de monter sur la croix. Maintenant, le diable est déjà jugé, ça veut dire condamné. Ça y est, il est condamné. Il est condamné. Et vous voyez que tout cela est une opération que je qualifierais de patente. C'est pas quelque chose qui tient à la sentimentalité. C'est quelque chose de précis. C'est quelque chose de patent. C'est quelque chose qui fait jouer des règles immortelles, des règles des lois établies par Dieu lui-même. Là, il y a la mise en jeu des lois de Dieu. Cette victoire du Sauveur nous ouvre donc la voie du salut éternel. Et la foi en Jésus-Christ ne peut pas nous être demandée autre chose, mais c'est beaucoup ça. Parce que c'est la seule chose que nous puissions faire. C'est la seule chose que Dieu a mise en nous pour que nous puissions saisir la victoire du Sauveur qu'il nous donne. C'est cette possibilité de foi. La foi qui est un sens spirituel, qui est une puissance que nous portons en nous. Les incrédules les plus irréductibles ont cette foi en eux. Ils en ont le germe, la puissance. Il pourrait l'exercer. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que des grands incrédules ont pu un jour, tout de même, être amenés à Jésus-Christ et croire. La foi en Jésus-Christ procure aux croyants donc la possibilité de prendre, de saisir, et la possibilité de s'unir avec le Christ. Nous voyons dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, Jacob luttait avec l'ange de l'Éternel. Et alors ce Jacob, qui paraissait dominer la situation dans cette lutte qui était à la fois spirituelle et physique, eh bien, voici que, en somme, il tenait à l'ange de l'Éternel la dragée haute. Probablement que l'ange de l'Éternel voulait que les choses fussent ainsi, bien sûr. Et alors, au matin venu, comme Jacob était encore, semble-t-il, le plus fort, hein, alors l'ange de l'Éternel lui donne un coup à la hanche, et voilà notre Jacob qui, alors, étant handicapé, et il peut plus, il n'a plus la force de poursuivre la lutte, n'est-ce pas ? Il doit l'abandonner. Mais malgré tout, il s'agrippe à l'ange de l'Éternel. Il dit, je ne vais pas te laisser aller, moi. Je ne veux pas te laisser aller avant que tu ne m'aies béni. Qu'est-ce qui le pousse à faire ça ? Tout ça est conduit par l'esprit, parce que Jacob, t'es pas un être exceptionnel, loin de là. Enfin, loin de là. Il avait été choisi par Dieu pour des raisons patentes que nous trouvons dans les textes. Mais enfin, il n'avait rien d'extraordinaire, n'est-ce pas ? Ça avait été jusque-là un garçon assez déloyal. Et il s'agrippe à l'ange de l'Éternel. Non, je ne te quitterai pas, je ne te laisserai pas aller. Quelle image de l'exercice de la foi. Voyez-vous, nous qui sommes aussi handicapés, hein, et qui, malgré tout, trouvons en notre nature une puissance qui nous permet de nous agripper au Seigneur Jésus. C'est ça la puissance de la foi. Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Ah, si nous avions des conversions aujourd'hui qui puissent vraiment mettre en mouvement, en œuvre une telle foi. Hélas, nous avons maintenant souvent des conversions mièvres. Mièvres. Des conversions douteuses. Ce n'est pas pour, certes, offenser le Seigneur, loin de là que nous disons cela, mais il faut avoir vu les conversions. Les conversions dont la lutte de Jacob avec l'ange et l'image, il faut avoir vu cela pour vraiment connaître ce qu'est une véritable conversion. Un homme qui se sait, qui s'est vu par révélation de l'esprit, vraiment bas tombé, pécheur, mauvais, méchant, qui l'avoue, qui le crie. Mais qui, voilà, rencontre Christ, là, on lui parle de Christ, il a, en somme, la vision du Christ, Seigneur, Sauveur, son salut est là, sa vie est là, il s'agrippe avec une puissance extraordinaire, une puissance de la foi qui domine la puissance du péché. Très formidable. C'est ça, les conversions, mes amis. C'est ça. C'est ça. Et c'est quelque chose de magnifique. Ainsi, désormais, il est possible de rompre avec la nature déchue et de ne plus appartenir au vieux monde où s'exerce toujours la puissance de la mort. Et il est possible d'entrer dans le monde nouveau, né de la victoire de Christ sans le péché, sans la mort. Le vrai chrétien n'est plus de ce monde, quoique vivant encore au milieu de ce monde. En expirant, Jésus a dit « Tout est accompli ». En effet, tout est fini. Oh, tout, le « tout est accompli », on peut l'entendre dans plusieurs sens. Il est vrai dans tous les sens. Tout est fini, c'est fini. L'empire du péché, c'est fini, l'empire de la mort, parce que le plan de Dieu est accompli, c'en est fait, c'en est fini. Il y aura, le « c'en est fait » est encore à prononcer, il a bonne place dans l'Apocalypse, et il sera prononcé par Dieu, mais là c'est le « tout est accompli », à la mort de Jésus. Ce n'est pas à des anges que Jésus-Christ vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, nous dit notre épître. Le Fils de Dieu ne s'est pas fait ange pour sauver des anges, ce qui eût été d'ailleurs impossible, car les anges ne proviennent pas d'une procréation. Les anges ont tous été créés un par un. Chaque ange dépend, vient, provient d'un acte créateur isolé de Dieu. Il n'y a pas eu de procréation, comme pour l'homme. De plus, les anges déchus ne sont pas susceptibles de salut. Et les anges fidèles n'en ont pas besoin. Mais les anges fidèles, Dieu veut qu'ils portent leur regard sur l'Église pour y découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que nous offrons aux anges, chers amis, ce spectacle-là? N'en dis pas plus, maintenant. Mais vous savez, beaucoup savent ici quel est le fond de ma pensée. Il y a des choses qui n'appartiennent pas à la sagesse infiniment variée de Dieu et qui offensent la vue des anges. Alors, chers amis, tout cela est motif à réflexion. La vie chrétienne doit être réflexion. La sagesse, nous dit le livre des Proverbes, la sagesse est d'abord la science de la réflexion. Heureux l'homme qui réfléchit sur les choses. Heureux, c'est une béatitude. Chers amis, on ne réfléchit pas assez à ces choses-là. La parole de Dieu appelle de notre part une profonde réflexion. Ça entre dans la méditation productive. Donc, ce ne sont pas des anges que Jésus-Christ peut sauver. Le verset que j'ai rappelé, « Ce n'est pas à des anges que Jésus-Christ vient en aide », entend souligner que puisqu'il s'agit du salut des hommes, c'est à l'humanité que Jésus devait participer. Il sauve ceux qui constituent la postérité spirituelle d'Abraham, père des croyants. Et au verset 17, « Afin qu'il fût un souverain sacrificateur, il fallait que, dans le plan de Dieu, que Jésus soit un souverain sacrificateur. » La fonction, l'office de souverain sacrificateur. En somme, le Seigneur a dû participer à notre nature pour deux raisons essentielles. La première est celle-ci, il fallait qu'il puisse vaincre, qu'il ait occasion de vaincre le péché, il fallait qu'il meure pour en faire l'expiation, et nous délivre ainsi de la puissance de Satan. C'est la première raison pour laquelle le Seigneur a participé à notre nature humaine. La deuxième raison est celle-ci, il fallait que le Christ intervienne efficacement en faveur des croyants auprès du Père, en assurant ainsi l'œuvre d'un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle, ajoute notre texte, d'un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Ceux du culte lévitique n'étaient peut-être pas toujours, c'étaient des hommes, toujours miséricordieux et fidèles. Mais lui est ce souverain. Et s'il y a dans le culte lévitique, dans la loi de Moïse, s'il y a toute cette structure avec pour point central le souverain sacrificateur, dans ses vêtements sacerdotaux qui sont significatifs eux aussi, avec tout ce dispositif au milieu duquel il évolue, s'il y a tout cela, c'est bien pour nous dire « attention ». Le salut va nécessiter cela, cela que vous voyez en figure, là, en figure préparatrice dans le culte lévitique, eh bien cela va venir en réalité dans le ciel. Il y a, alors, à maintenant, attention, nous avons un souverain sacrificateur. Donc, je disais que le Seigneur a dû participer à notre nature pour ces deux raisons. D'abord, pour vaincre le péché, pour expier, n'est-ce pas? Bon, cela, nous l'avons déjà dit. Mais deuxièmement, pour être un souverain sacrificateur, parce que pour être un souverain sacrificateur, il fallait qu'il soit homme aussi. Il fallait qu'il fût homme. Pour être sacrificateur, Jésus a dû accepter de porter la ressemblance de l'homme déchu, mais à l'homme de foi, il communique sa propre ressemblance. J'ai dit tout à l'heure qu'il nous transportait de notre origine à son origine. Eh bien, on peut dire maintenant, si vous voulez, il nous transporte d'une ressemblance à Adam, au premier Adam, à une autre ressemblance à celle, à la sienne, celle du second Adam. Nous transporte d'une à l'autre. En somme, Jésus a ressemblé à l'homme perdu. Il a ressemblé, c'est fini. Il a ressemblé à l'homme perdu, pour que celui-ci puisse ensuite lui ressembler. Entre-temps, l'œuvre de rédemption ayant été faite, comme nous l'avons dit, avec lutte, avec combat, avec pleurs, supplications, comme dira le chapitre 5 de notre épître. Et donc, Jésus a ressemblé à l'homme perdu pour que celui-ci puisse ensuite lui ressembler à travers une transformation par régénération. Le souverain sacrificateur peut compatir à nos faiblesses, nous dira un peu plus loin l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Le souverain sacrificateur est homme, vous voyez, il a fallu qu'il soit homme, parce qu'il peut aussi compatir à nos faiblesses, parce qu'il les connaît, il a vécu en homme. Et je ferai remarquer d'ailleurs ceci, c'est que, allons un petit peu tout de suite au chapitre 4, simplement pour ce verset 15, chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Enfin, eh bien, donc, il a fait l'expérience humaine. Vous voyez, n'est-ce pas, quelle aurait été la position de Dieu, tout-puissant. Pourtant, Dieu est tout-puissant, Dieu sait tout. Dieu peut tout voir. Bon, mais tout de même, la position de Dieu se veut, tant pis si le mot est un peu maladroit, se veut honnête à l'égard de nous, des hommes pécheurs que nous sommes, qu'il veut sauver, n'est-ce pas? Et parce que Dieu, en somme, n'aurait vu toute chose que par sa vue propre, si vous voulez, de loin, extérieurement. Mais Dieu n'aurait pas éprouvé, ne serait pas entré dans la tragique condition de l'homme pécheur. Tandis que Jésus, par son incarnation, y est entré. Il y est entré. Voyez, Dieu, n'est-ce pas, serait resté le juge, malgré tout, si on peut dire, distant, éloigné de la réalité tragique de la condition humaine, de la condition du pécheur. Hein. Tandis que là, Jésus, il a été en plein dedans. Il est venu là au milieu. Des tentations sont venues même plus que à l'égard de n'importe quel autre homme. Des tentations sont venues l'assaillir. Et il a dominé sur elle. Il a dominé. Et donc, par sa nature humaine, pas parce qu'il a fait intervenir un pouvoir divin. Attention, oh, comme ce serait nécessaire qu'on revoie tous les évangiles ensemble, chers amis. Si ça nous était donné, comme ce serait bien. Revoir tous les évangiles et retrouver vraiment Jésus dans sa lutte, dans sa vie en tant qu'homme. Ce n'est pas parce qu'il fait intervenir un pouvoir divin, ça serait trahir sa mission, ça. Parce qu'évidemment, par le pouvoir divin, on peut tout faire. Bon, alors par conséquent, n'est-ce pas, la tentation arrive, si on fait agir la puissance divine, bon, ça ne compte plus. Mais non. Il a lutté en homme, et qui s'est voulu pendant un moment séparé, parce qu'il était toujours dans le sein du Père, attention, mais s'est voulu comme séparé de sa nature divine, en quelque sorte. C'est-à-dire, sa nature divine était comme au repos, comme elle était là, elle assistait à toute la lutte, mais elle n'intervenait pas. Dans la personne de Jésus, nous voyons la nature divine, à certains moments, opérer, parler, s'avancer, et puis à d'autres moments, elle se tait, elle se cache, parce que c'est selon la mission. Et alors, c'est la nature humaine qui est là toute seule. À certains moments, sa nature humaine a été seule, à lutter, à connaître l'assaut des puissances que Satan s'ingéniait à faire monter contre lui. Et c'est là qu'il a vaincu, vraiment. Il a vaincu. Il a vaincu en homme. Et alors, Dieu en lui a enregistré le fruit de cette victoire, a pris le fruit de cette victoire. Le souverain sacrificateur peut compatir à nos faiblesses, car il a été tenté en toutes choses. Au verset 18, il y a « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » En somme, il a connu toutes nos épreuves. Il a aussi été tenté dans le corps de ses souffrances. Il a subi les assauts des ténèbres. Le monde et les méchants se sont employés à le surprendre. On a essayé de le surprendre. De surprendre la nature humaine. Le diable sait très bien que, de face, la résistance peut être qui lui est opposée peut être victorieuse. Mais il emploie une méthode par surprise. Vous le savez bien, chers amis, combien de fois n'avons-nous pas été surpris par la tentation ? Surpris. Ah, si on avait su, on n'aurait pas fait ça. Ah, si on avait su, on aurait agi autrement. On a été surpris. Mais le Seigneur, il a été surpris aussi. Mais il n'a pas succombé. Quelle force ! Force d'obéissance qui était en lui, dans sa nature humaine. Il a subi les assauts des ténèbres. Il sait que la lutte est dure et que les hommes ont besoin de son secours éclairé. C'est pourquoi, chers amis, il nous est dit, ce n'est pas gratuitement que cela nous est dit, cela nous est dit parce que ça existe, parce que c'est dans les conséquences de l'œuvre de Jésus, les conséquences qui s'offrent à nous. Nous pouvons vraiment avoir recours à lui. Nous pouvons mettre notre confiance en lui. Il faut apprendre à mettre sa confiance dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement comme Dieu, mais comme Fils de l'homme, que Jésus maintenant secourt ceux qui sont tentés. Ce n'est pas seulement comme Fils de Dieu, parce qu'il est Fils de Dieu. Mais Fils de Dieu, bon, cela lui donne, si vous voulez, maintenant, d'être souverain sacrificateur. Il est homme, il est Dieu, et il est entre l'homme et Dieu. Il est là le médiateur. Mais c'est comme homme aussi qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Il accomplit ainsi son ministère sacerdotal, souverain sacrificateur. Il accomplit ce ministère sacerdotal en toute miséricorde. Et il nous est dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, au verset 29, que Jésus prend soin d'Église. Il prend soin d'Église. Et donc, il prend soin de la vie spirituelle des membres de l'Église. N'est-il pas un guide dans la voie de la souffrance et de l'élévation à la perfection ? C'est bien pourquoi il importe que tous les chrétiens et pleine confiance en lui, alors faisons l'expérience de la vérité de ce que l'Épître aux Hébreux nous déclare. Ayons confiance, mettons notre confiance pleine, et si nous mettons notre confiance en Jésus, ne la mettons pas à côté, ailleurs, à lui seul. Si nous mettons notre confiance en lui, puis également en quelque chose d'autre, alors là, nous sommes partagés, nous montrons que nous n'avons pas la foi. Voilà, chers amis, en ce qui concerne le chapitre 2. Et nous allons arriver au chapitre 3.